Chapitre 2. Au fond de son cœur, Didi savait qu'elle avait de la chance. Mais sa tête n'était pas encore prête à l'admettre. Elle se réveilla tard, à plus de 10 heures, ce qui la laissa déboussolée. Si un jour quelqu'un lui avait dit qu'elle serait capable de dormir jusqu'à 1 heure pareille à lundi, elle l'aurait traité de sale menteur. Les matinées sont faites pour se lever et quitter la maison, siffler des cafés serrés, faire le point avec son équipe et éventuellement enquêter sur un nouvel homicide. Elle aimait les cafés serrés, ses collègues et les homicides intéressants. Elle n'aimait pas enchaîner les nuits sans repos, à dormir d'un mauvais sommeil émaillé de rêves inquiétants. Des rêves où chantonnaient des ombres à qui poussaient parfois des bras et des jambes, des ombres qui la pourchassaient. Et ensuite elle tombait, à chaque fois, sans exception. Dans ses cauchemars, la grande Didi Warren faisait un plongeon fatal. Parce qu'au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait de la chance, mais sa tête n'était pas encore prête à l'admettre. Le babyphone se trouvait toujours sur la table de chevet, allumé mais silencieux. Alex avait sans doute déposé Jack à la crèche. Ensuite, il avait eu le loisir de partir faire son travail à l'école de police pendant que Didi consacrait sa journée à se lever. Elle changea de position avec précaution. Tout mouvement du bras et de l'épaule gauche provoquait encore de violents élancements, si bien que ces dernières semaines, elle s'était perfectionnée dans l'art de se retourner sur le côté droit. De là, elle pouvait balancer les pieds jusqu'au plancher, ce qui l'aidait à redresser le buste tant bien que mal. Ayant réussi l'exploit de s'asseoir, elle passait les minutes suivantes à reprendre son souffle. Parce que la suite des opérations faisait mal, mais alors un mal de chien. Et qu'au bout de 6 semaines, la malheureuse qu'elle était supportait de moins en moins bien la douleur au lieu de s'y résigner. Muscles froissés, inflammation des tendons, élongation des nerfs. Et le pompon, une fracture par arrachement, la déchirure d'un fragment de son humérus gauche. En l'espace de quelques secondes, son corps avait subi tant de traumatismes qu'à 44 ans, elle se déplaçait comme l'homme de fer blanc, incapable de tourner la tête, lever le bras gauche ou pivoter le torse. Pas d'opération possible, lui avait-on dit. Les seuls remèdes étaient le temps, le courage et la kinésithérapie. Et elle s'astreignait donc à sa rééducation. 2 rendez-vous hebdomadaires, suivis d'exercices quotidiens qui la faisaient hurler de douleur. Oubliez l'idée d'être un jour de nouveau capable de tirer au pistolet. Pour l'instant, elle ne pouvait même pas prendre son fils dans ses bras. Respirer profondément, compter jusqu'à 3, se lever. C'était un mouvement brutal. Presque impossible à réaliser complètement d'aplomb, de sorte qu'elle compensait d'instinct par un haussement d'épaule par-ci, une rotation du cou par-là. Elle serra les dents, ferma le poing et proféra les mots les plus orduriers qui lui vinrent à l'esprit, c'est-à-dire après 20 ans passés dans la police de Boston, des jurons à faire rougir un camionneur atteint de coliques néphrétiques. Et même dans ces conditions, elle faillit vomir de douleur. Mais elle était debout. Trempée de sueur, en équilibre légèrement instable, mais bel et bien à la verticale. Alors elle se demanda pour la énième fois ce qu'elle pouvait bien fabriquer sur cette scène de crime à 1 heure aussi tardive. Car elle n'avait toujours aucun souvenir de cette soirée. Elle avait été blessée comme jamais dans sa vie, avait mis sa carrière en danger et sa famille dans une situation critique. Mais elle n'avait toujours pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Un jour, 6 semaines plus tôt, elle s'était rendue à son travail. Et depuis lors, sa vie était un point d'interrogation. Encore 1 demi-heure, le temps de se brosser les dents, de se coiffer. Se doucher exigeait l'aide d'Alex. Il faisait ça de bonne grâce. Il était prêt à tout, disait-il, du moment qu'elle était nue. Mais il la couvait de son regard bleu profond, vigilant, comme si d'un seul coup elle était en verre. Et qu'il fallait constamment la manipuler avec délicatesse. Le jour de son retour à la maison, elle l'avait surpris à regarder les ecchymoses noirâtres qui lui zébraient le dos, et il avait l'air accablé, horrifié, consterné. Elle n'avait pas dit un mot. Au bout de quelques instants, il avait recommencé à rincer le shampoing de ses courtes boucles blondes. Cette nuit-là, il avait tendu la main vers elle, avec beaucoup de précaution. Mais par réflexe, elle avait eu un sursaut de douleur et il avait précipitamment retiré sa main, comme si elle l'avait frappé. La situation n'avait pas évolué depuis. Il l'aidait à accomplir les gestes de la vie quotidienne. Et en contrepartie, elle avait l'impression de devenir lentement mais sûrement l'ombre d'elle-même. Un deuxième enfant à la charge de son mari qui faisait montre d'une patience d'ange. Au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait de la chance. Mais sa tête n'était pas encore prête à l'admettre. Séance d'habillage. Comme son bras gauche n'était pas assez mobile pour qu'elle puisse enfiler un chemisier, elle chipa une grande chemise à carreaux d'Alex et passa son bras droit dans la manche tout en laissant le gauche collé à sa cage thoracique. Elle n'arriva pas à fermer tous les boutons pression, mais c'était bien assez pour prendre son petit déjeuner. Marcher, ça allait encore. Une fois en position verticale, et du moment qu'elle gardait le dos droit et le buste d'aplomb, son cou et son épaule ne lui faisaient pas trop mal. Elle descendit les escaliers avec précaution, sans lâcher la rampe un seul instant. La dernière fois qu'elle avait eu maille à partir avec des escaliers, il l'avait battue à plate couture, et elle ne pouvait pas se résoudre à leur faire de nouveau confiance. Un bébé dans un berceau, dans un arbre tout en haut. Génial. Toujours cette vieille berceuse sinistre qui tournait en boucle dans sa tête. Arrivée dans le séjour, Didi entendit des voix dans la cuisine. Deux hommes qui faisaient des messes basses. Peut-être son beau-père, passé prendre un café. 6 mois plus tôt, les parents d'Alex étaient installés à Boston pour passer plus de temps avec leur unique petit-fils. Au début, Didi s'était inquiétée. Elle-même était bien contente que ses propres parents habitent à l'autre bout du pays, en Floride. Mais Bob et Edith, les parents d'Alex, s'étaient rapidement montrés aussi faciles à vivre que leur fils. D'autant que le petit Jack les adorait, et qu'entre les contraintes professionnelles d'Alex et les siennes, cela ne faisait jamais de mal d'avoir un couple de grands-parents aussi facilement joignable. Bien sûr, elle préférait l'époque où c'était à cause de ses obligations professionnelles qu'il venait la dépanner, et non parce qu'elle était impotente, au point de ne même plus pouvoir s'habiller. Mais passons. Les deux hommes essayaient manifestement de ne pas la réveiller. Elle prit cela comme une invitation à entrer. Salut. Alex, assis à la table ronde de la cuisine, leva aussitôt les yeux. Puis son interlocuteur, qui n'était pas le père d'Alex, mais Phil, le coéquipier de Didi, en fit autant avec moins d'empressement. Alex présentait déjà un visage apprêté et serein. Debout depuis des heures, il s'était douché, rasé, occupé de leur fils. À présent, il était en tenue de travail, chemise bleu marine de l'école de police, rentrée dans un élégant pantalon kaki. La chemise faisait ressortir ses yeux sombres, ses cheveux poivre et sel. Il était beau, se dit-elle comme bien souvent. Séduisant, intelligent, dévoué à leur fils, attentionné avec elle. En face de lui se trouvait le plus ancien équipier de Didi, Phil, le crâne dégarni, marié jusqu'à ce que la mort les sépare avec Betsy, son amour de lycée, et père de 4 enfants. Il lui avait un jour expliqué qu'il avait rejoint la brigade criminelle pour échapper aux horreurs de la vie de famille. Sa présence excita la méfiance de Didi. « Kawa ?» proposa-t-il sur un ton jovial. Mais il évita son regard et, repoussant sa chaise, se dirigea droit sur la cafetière. « Vous n'êtes pas golfeur, » dit Didi. Alex esquissa un petit sourire. « Quoi ?» Phil, très concentré, versait du café avec application dans une énorme tasse. « Aucun de vous deux ne joue à des jeux d'argent. Et vous n'avez pas non plus de copains en commun dont il faudrait organiser l'enterrement de vie de garçon. En fait, le seul lien entre vous, c'est moi. » Phil termina de servir le café. Il reposa soigneusement la cafetière, prit lentement la tasse fumante, se retourna posément vers Didi. Celle-ci tira une chaise, se laissa tomber dessus et grimaça. D'un seul coup, elle n'était plus certaine d'avoir envie de savoir. Alex ne souriait plus. Il se pencha vers elle pour lui caresser doucement le dos de la main. « Tu as réussi à dormir ?»« Comme une marmotte. Je n'ai jamais été aussi reposée. » Si seulement je pouvais retomber dans les escaliers pour pouvoir traîner encore plus au lit. Didi focalisa son attention sur Phil. Il était le maillon faible. Elle ne savait pas ce qui se tramait, mais il serait le premier à craquer. Vdite ? Elle avait émis cette supposition d'une voix suave. Phil se tenait toujours devant elle, la tasse entre les mains. En jargon policier, Vdite signifiait « Firearms Discharge Investigation Team ». À chaque fois qu'un officier faisait usage de son arme, par exemple contre une cible non identifiée sur une scène de crime plongée dans l'obscurité, il revenait à ce service d'enquêter pour déterminer si le policier avait agi de manière légitime ou s'il avait commis une bavure. Lorsque Didi avait repris connaissance à l'hôpital, la brigade de l'AFDIT avait déjà confisqué son arme, et son avenir au sein de la police était désormais suspendu au rapport qu'elle rendrait à la commission de déontologie. Ses collègues s'étaient voulu rassurants. Les coups étaient certainement partis pendant sa dégringolade dans les escaliers. Sauf qu'un Sig Sauer ne sort pas tout seul de son étui fermé. Et que l'index d'une policière ne vient pas par hasard se poser sur la détente pendant qu'elle tombe en arrière dans le vide avant de tirer à trois reprises. Non. Didi avait volontairement fait feu avec son arme de service. Elle avait tiré sur quelque chose, sur quelqu'un. Même elle n'était pas dupe. Mais sur quoi ? Sur qui ? Avec ou sans motif valable ? Ses collègues n'avaient retrouvé personne d'autre sur les lieux. Seulement Didi, inanimée dans l'entrée de Christine Ryan, et trois impacts de balles dans le mur. Un des projectiles avait traversé la cloison jusqu'au logement mitoyen. Dieu merci, il n'avait touché personne. Mais le voisin n'avait pas apprécié l'épisode. Et puis d'abord, au nom de quoi est-ce qu'un policier tirait des coups de feu dans la maison d'à côté ? Inévitablement, les rapports adressés à la commission de déontologie ne tenaient pas seulement compte du comportement de l'officier mis en cause, mais aussi de ses répercussions sur l'image du service tout entier. Didi était sur la sellette, et elle le savait. La seule raison pour laquelle la crise n'avait pas encore éclaté, c'était que la gravité de ses blessures lui avait valu une mise en arrêt maladie immédiate. Il n'y avait pas d'urgence à ce que l'administration statue sur son éventuelle reprise du travail. Son médecin l'avait déjà prévenu que ce ne serait pas pour demain. « Pas de nouvelles, » répondit Phil. « Oh ! Ce qui est sans doute bon signe, » continua-t-il avec autorité. « S'il y avait des preuves flagrantes de faute professionnelle, l'administration n'hésiterait pas à sévir. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, tu vois ?» Didi toisa son coéquipier de longue date en regrettant que son expression ne soit pas aussi rassurante que son discours. « Ton épaule ? Tu me reposeras la question dans 3 mois. »« C'est si long que ça ? C'est surtout que je suis si vieille que ça. Mais je fais ma kiné et je m'exerce à la patience. » Phil lui lança un regard dubitatif. Depuis le temps qu'il travaillait avec elle, il savait que la patience n'était pas la qualité première de Didi. « Je ne te le fais pas dire, » confirma-t-elle. « Tu as mal ? Seulement les 3/4 du temps. On ne t'a rien donné ? Aussi, on m'a donné toutes sortes de médicaments. Mais tu me connais, Phil. Pourquoi calmer ma douleur alors que je peux passer mes nerfs sur les autres ?» Phil hocha la tête. Alex lui caressa le dos de la main. « Je vais voir un nouveau médecin aujourd'hui, » continua-t-elle en haussant maladroitement l'épaule droite. Une spécialiste des thérapies cognitives pour le traitement de la douleur. La victoire de l'esprit sur la matière, ce genre de conneries. On ne sait jamais, je pourrais en ressortir moins bête. Tant mieux. Phil posa enfin la tasse de café sur la table, en prenant soin de la mettre à un endroit où Didi pourrait l'atteindre de sa main valide. Sa mission accomplie, il sembla désemparé. Si tu n'es pas venu parler du rapport de l'AFDIT, demanda doucement Didi. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors, comme Phil gardait les yeux baissés et qu'Alex lui caressait une nouvelle fois la main, elle ferma les yeux et accepta la confirmation de ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Il y a eu un nouveau meurtre. Oui. Même scénario. Victime écorchée, rose sur le ventre, bouteille de champagne sur la table de nuit. Oui. Tu as besoin que je me souvienne. Et tout de suite après, Tu n'es pas là en tant que collègue. C'est ça, Phil. Il ne s'agit pas d'une conversation entre policiers. Tu as besoin de savoir ce que j'ai vu ce soir-là. Tu m'interroges comme témoin. Pas de réponse. Alex caressait toujours du pouce la naissance de ses doigts. Elle contempla sa tasse de café. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle. « Je comprends très bien. Et bien sûr, je vais vous aider. Je ferai n'importe quoi pour ça. » En sa qualité d'ancienne enquêtrice, se dit-elle. Tout en essayant de se rappeler qu'elle savait au fond de son cœur qu'elle avait de la chance, même si la tête n'était pas encore prête à l'admettre.